Bonjour, c'est Alban Penaranda des Nuits de France Culture. Pour célébrer les 60 ans de notre chaîne, je vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines archives iconiques distinguées par de prestigieux prix. Des émissions qui ont marqué leur époque et l'histoire de la création radiophonique.
Une étoile nommée Absinthe, Tchernobyl.
Tchernobyl est un des noms russes de l'absinthe, plante herbacée dont on extrait par distillation un principe alcoolique amer. Il signifie aussi amertume, douleur, tourment. 2000 ans avant la catastrophe, l'Apocalypse de Saint Jean cite le nom de la plante appelée en russe Tchernobyl dans cette vision. Le troisième ange sonna la trompette et une grande étoile tomba du ciel, ardente comme une torche. Elle frappa un tiers des fleuves et les sources des eaux. L'étoile s'appelle Absinthe. Un tiers des eaux se changea en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par ces eaux parce qu'elles devinrent amères.
Когда люди пытались перейти от растерянности к осмыслению, когда они начинали разговор с того, что я нигде об этом не читал, нигде не видел, никто мне об этом не рассказывал, а потом начал рассказывать, что он видел. Вот эту историю с балконом расскажи, да, что малиновое свечение, физики, учителя выносят детей смотреть. И потом они анализируют, так вот какие мы были. Что смерть, не писали, что смерть уже другая, такая красивая.
И en fait, c'était la mort.
Там вот себя чувствуешь вот, ну, в этом разрушенном зале, в центральном, как вот на другой планете. Это, ну, как в фантастическом фильме.
C'était comme un film fantastique.
Cette pluie tiède d'avril,
le 26 avril.
Depuis ce temps-là, je pense à cette pluie. Les gouttes roulaient comme du mercure. On dit que la radiation n'a pas de couleur, mais les flaques étaient vertes ou jaunes, fluorescentes.
Nos fenêtres donnaient sur la centrale.
Nous habitions Pripyat, tout près du réacteur.
Une ville qui n'existe plus.
Je revois tout cela de mes yeux. Une lueur framboise, flamboyante. Le réacteur semblait éclairé de l'intérieur. Ce n'était pas un incendie ordinaire, mais une luminescence. C'était très beau. Je n'ai rien vu de tel, même au cinéma.
À midi, il n'y avait plus aucun pêcheur au bord de la rivière. Ils sont rentrés chez eux complètement noirs. Le bronzage nucléaire.
Le soir, tout le monde était à son balcon. Ceux qui n'en avaient pas sont passés chez les voisins. On prenait les enfants dans ses bras pour leur dire « Regarde, cela te fera des souvenirs ». Et c'était des employés de la centrale, des ingénieurs, des ouvriers, des professeurs de physique. Ils se tenaient là, dans la poussière noire. Ils parlaient, ils respiraient, ils admiraient. Certains faisaient des dizaines de kilomètres en bicyclette ou en voiture pour voir cela.
Et en fait, c'était la mort.
Nous ignorions que la mort pouvait être aussi belle.
Деревья здесь выкорчевали. Здесь были фруктовые деревья, маленький садик сажали дети. Они уже подросли в первую осень. Я приезжала, здесь такие крупные плоды были. Они здесь сажали розы.
Avant, ici, nous cultivions des roses.
И получилось так, что с одной стороны, как бы Чернобыль окончательно похоронил эту огромную империю. А с другой стороны, он выбросил в другой мир нас всех.
Чернобыль, c'était probablement la chose qui a enseveli l'Empire soviétique, mais aussi cela nous a projeté dans un monde complètement différent.
И живя в Беларуси, которая в результате вообще, что ветер дул в эту сторону, и все тучи пошли как бы на нас, хотя мы не имеем одной атомной станции, оказалось, что Беларусь пострадала больше всех. И жить в Беларуси и не задаться вопросом, то есть
ma vie fait partie de l'événement, c'est ici que je vis. Sur la terre de Tchernobyl. Dans cette petite Biélorussie dont le monde n'avait presque pas entendu parler avant cela. Dans un pays dont on dit maintenant que ce n'est plus une terre, mais un laboratoire.
Le peuple biélorusse, bien que nous n'ayons pas de centrale nucléaire à nous, c'est les Biélorusses qui ont subi le plus de conséquences dramatiques.
Les Biélorusses constituent le peuple de Tchernobyl. Tchernobyl est devenu notre maison, notre destin national.
Vivant dans ce pays, je ne pouvais pas ne pas réagir.
Comment aurais-je pu ne pas écrire ce livre ?
Mais quoi écrire? Comment écrire?
То есть надо было написать такую книгу, которая бы отвечала на эти вопросы, которые возникли во мне самой, потому что вокруг уже писалось много книг о Чернобыле, но все они, когда я их читала,
Чернобыль это не метафора, а символ.
Во всем виноват,
и мем не история.
Национальное освобождение, возрождение везде, и, или антикоммунизм, что вот для коммунистов ничего человеческая жизнь не стоит. Но все это не было ответом на те вопросы, которые возникали в связи с Чернобылем каждый день, поскольку там и мои родители жили недалеко.
Des dizaines de livres ont été écrits, des milliers de mètres de bandes vidéo tournées.
Фаги, газеты все постоянно писали.
Que peut-on y ajouter?
Но понадобилось 10 лет, чтобы найти вот ответы именно на эти вопросы, которые были внутри.
Pourquoi je dis quoi écrire? Parce que, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, je voulais avoir des réponses à des questions qui me préoccupaient personnellement. Et moi, je ne trouvais pas de réponse à ces questions dans les livres, dans la presse. Mais les gens se posaient des questions dans les termes, par exemple, de responsabilité. Qui est coupable? Qui a causé cela? Ou bien c'était des accusations. On disait que voilà, le système communiste est mauvais, la vie humaine n'a pas de valeur. Chez les Ukrainiens ou les Biélorusses, c'était aussi des sentiments anti-russes, parce que c'était les Russes qui étaient les responsables, qui ont construit les centrales, etc. Mais cela me concernait de près, ne serait-ce que parce que mes propres parents étaient dans la zone, beaucoup de gens que je connaissais ont vécu et ont travaillé dans cette zone, il y avait beaucoup de gens qui ont participé à la construction du sarcophage, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est trouver mes réponses. Et cela m'a pris 10 ans.
Ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl. De ce dont nous ne connaissons presque rien, une histoire manquée. Voilà comment j'aurais pu l'intituler. L'événement en soi, combien de tonnes de sable et de béton a-t-il fallu pour ériger le sarcophage au-dessus du trou du diable, ne m'intéressait pas. Je m'intéressais aux sensations, aux sentiments des individus qui ont touché à l'inconnu.
Ce que ces gens sentaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils pensaient, comment ils essayaient de vivre dans ce nouveau monde qui s'est ouvert à eux, et les choses irrationnelles, des rêves, des peurs, toutes les réactions à la réalité complètement nouvelle.
C'est plus qu'une catastrophe. Après Tchernobyl, nous vivons dans un monde différent. Il s'est produit un événement pour lequel nous n'avons ni système de représentation, ni analogie, ni expérience. Un événement auquel ne sont adaptés ni nos yeux, ni nos oreilles, ni même notre vocabulaire. Une nouvelle histoire des sens vient de commencer.
Это должна была быть книга для всех, не только для русских, там белорусов, украинцев, с кем это произошло, а должна была быть книга для всех людей, потому что мы действительно живем в этом мире уже атомном, и надо было рассказать вот,
plus
что
fois,
нас ждет, почему и книга называется «Хроника будущего».
J'ai eu l'impression de noter le futur.
C'est une bombe lancée dans le futur. La nature est devenue
ennemie. Он сейчас несет опасность. Туда опасно ходить в лес. Вода может быть опасна. Это все переосмыслить человеку, который вырос в этой природе, как дитя природы. Это очень серьезные обстоятельства.
L'eau même est dangereuse.
Cette épreuve dépasse tellement l'échelle humaine que l'homme se sent impuissant. C'est-à-dire, nous avions l'habitude d'avoir des relations de force un peu avec la nature. Nous étions sûrs que nous pouvons dompter la nature, modifier la nature. L'homme refuse d'admettre que ce qui s'est passé est beaucoup plus fort que lui. C'est quelque chose qu'il est très difficile d'accepter. Alors, l'homme a tendance aussi de se comporter un peu comme un enfant. Quand il voit une chose horrible, il ferme les yeux. D'où ce rejet, d'où ce désir de l'oubli. Bien sûr, très souvent, les gens essaient simplement de vivre comme si rien n'était arrivé.
Quand on me dit que nous avons oublié Tchernobyl, ou que c'était longtemps, pour moi, c'est complètement clair que nous ne l'avons pas oublié, et que ce n'est pas longtemps, mais toujours, parce que nous ne l'avons pas
compris. Et quand les gens me disent « nous avons déjà oublié Tchernobyl, ça a été il y a longtemps », moi, je pense qu'ils l'ont simplement refoulé parce qu'ils n'ont pas compris.
Доходит до 3 микросиверт.
Я уже прожил больше, чем 3 микросиверт. Ни на одном курорте не был. Ничего, все кушаю, все хорошо для меня.
Вы не боитесь?
Ничего не боюсь. Я прошел войну.
Можно и попер.
И тут нечем заниматься этим всем таким соплевозом.
La population en général a tendance, vu qu'elle est dans une situation sans issue, dans un cul-de-sac.
Je peux bien mourir maintenant.
Objectivement, on leur dit, c'est dangereux, et ils ne savent même pas où, parce que c'est par tâche. Ici, c'est pollué, et ici, ça ne l'est pas. Ici, tu as des champignons sales, ici, ils ne le sont pas, mais tu n'as pas d'instrument pour le mesurer. On te dit que c'est mauvais, et il le sent parfois sur lui-même, parce qu'il commence à avoir des problèmes de cœur, il commence à avoir des problèmes à la vue, la mémoire, etc. Bref, on l'informe de façon générique et globale qu'il est dans une situation d'empoisonnement et de risque, et en même temps, on ne lui donne aucun moyen d'en sortir. Alors, ou il se tire la balle dans la tête, ou il le fait de façon, comment dirais-je, virtuelle. Il se met à nier à lui-même la réalité de la chose. Il dit, bon, bah, j'ai survécu dans la guerre, suivant l'âge du personnage.
Значит, вот здесь вот, до вас, соскоблили куски крыши, рубероид, его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и на улицу вот сюда вниз бросаете очищенный мусор. Ясно? Значит, да. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинаете считать до 90. 1, 2, 3, 4 до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад.
Un véritable enfer pour ceux qui ont nettoyé le toit. Les petits soldats en combinaison et gants de caoutchouc couraient dans tous les sens. Mais les radiations étaient telles que tous les équipements brûlaient.
В этот момент накрывать саркофаг надо было сверху. Наверху находился уран после взрыва, графит этот, стержни. Это роботы там не выдерживали.
Это я тоже, вот, когда долго искала, И вот была, я всегда привожу, ты не расслышал, наверное, вот эту, когда я абсолютно точно поняла, о чем книга, когда я пришла к умирающему вертолетчику, который уже погибал, да, и вдруг он мне говорит, что как я рад, что вы успели. Мне немного осталось, потому что мы не все поняли, но все видели, это обязательно важно оставить.
J'ai définitivement compris de quoi devait parler mon livre quand j'ai rendu visite à un pilote d'hélicoptère qui était déjà mourant, qui a participé donc à la liquidation des suites de Tchernobyl, et qui m'a dit « Je suis heureux que vous soyez venu me voir parce que je ne voulais pas mourir avant d'avoir raconté ce que j'ai vu. Nous n'avons pas tout compris. » Mais nous avons tout vu, et je voudrais que ça se sache.
Дело в том, что все мои книги написаны в таком жанре, поскольку этот жанр со мной выбран не случайно, потому что мне кажется, что сегодня вот
un événement raconté par une seule personne et son destin.
Каждый человек заявляет.
Raconté par plusieurs, il devient l'histoire.
И уже без воспоминаний, свидетельств, без этих текстов, которые есть в каждом человеке, уже трудно представить современную картину мира в полноте.
Tout le monde a droit à l'expression parce que chacun détient une parcelle de la vérité et la vérité totale en quelque sorte elle est multiple et elle consiste de cette multitude de voix.
Trois années durant, j'ai voyagé et questionné des travailleurs de la centrale, des anciens fonctionnaires du parti, des médecins, des soldats, des émigrants, des personnes qui se sont installées dans la zone interdite, des hommes et des femmes de profession, destin, génération et tempérament différents, des croyants et des athées, des paysans et des intellectuels.
Je veux me souvenir, mais en même temps je ne veux pas.
Monologue sur la nécessité du souvenir. Monologue sur ce dont on peut parler avec les vivants et les morts. Monologue sur une vie entière écrite sur une porte.
On a fait de Tchernobyl une usine d'horreur, ou plutôt une bande dessinée. Moi, je ne vais vous raconter que mon expérience, ma vérité.
Monologue d'un village. Comment appeler les âmes du paradis pour pleurer et manger avec elles. Monologue sur la joie d'une poule qui trouve un ver. Monologue sur une chanson sans paroles. Trois monologues sur une peur très ancienne.
Nous venons du Tadjikistan, de Douchanbé. Là-bas, c'est la guerre.
Monologue sur l'homme qui n'est raffiné que dans le mal, mais simple et accessible dans les mots tout bêtes de l'amour. Le cœur des soldats. Monologue sur de vieilles prophéties.
Ma fillette, elle n'est pas comme tout le monde.
Monologue à propos d'un paysage lunaire. Monologue sur un témoin qui avait mal aux dents et qui a vu Jésus tomber et gémir. Trois monologues sur la poussière qui marche et la terre qui parle. Monologue sur la difficulté de vivre sans Tchekhov ni Tolstoï.
Il y a ceux qui pensaient avant, qui avaient des modèles de pensée, et qui sont totalement ébranlés dans leurs convictions. Alors ces personnages qui se réfèrent à la littérature, par exemple, ceux qui étaient professeurs, ceux qui étaient médecins. Il y a les personnages, disons, qui vivaient comme vivaient leurs ancêtres. Ces gens-là, qui aient eu le tsar, qui aient eu le modèle soviétique, qui aient eu la guerre, qui aient eu Tchernobyl, ils tiennent le choc. Bon, là où ils sont coincés, c'est qu'effectivement, ils tombent malades. Et ça, bon, c'était pas prévu. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un énorme retour vers la pensée religieuse et que notamment beaucoup pensent que l'apocalypse, ça y est, et que par exemple Gorbatchev ait eu cette tache sur la tête, était un signe du diable. Enfin, ben il y a ceux qui étaient du côté de l'organisation, donc on dirait un peu les héros militaires, politiques. Bon, ceux-là, ben ils défendent le système, ils défendent pourquoi ils ont pris telle position. Les héros d'hier ne sont pas les héros d'aujourd'hui.
Monologue sur ce que saint François prêchait aux oiseaux. Monologue sans titre, un cri. Monologue à deux voix pour un homme et une femme. Monologue sur une chose totalement inconnue qui rampe et se glisse à l'intérieur de soi. Monologue sur le regret du rôle et du sujet. Le cœur populaire. Monologue sur ce que nous ignorions, la mort peut être si belle. Monologue sur la légèreté de devenir poussière. Monologue sur les symboles d'un grand pays. Monologue sur le fait que dans la vie, des choses horribles se passent de façon paisible et naturelle. Monologue sur le fait qu'un Russe a toujours besoin de croire à quelque chose. Monologue sur la physique dont nous étions tous amoureux.
La parole d'un des plus grands scientifiques soviétiques qui est présent donc dans le bouquin a exactement la même valeur que celle d'une mère de famille qui a un enfant dont elle doit s'occuper jour et nuit parce qu'il a subi des effets, disons, de radiation tels que c'est une sorte de monstre. Ça a la même valeur. Et évidemment, la parole du communiste aussi, qui explique, 14 ans après, pourquoi il a fonctionné comme ça, et qui finalement dit, mais après tout, c'était important que le monde tourne comme ça aussi.
Monologue sur ce qui est plus insondable que la Kolyma, Auschwitz et l'Holocauste. Monologue sur la liberté et le rêve d'une mort ordinaire. Monologue sur ce qu'il faut ajouter à la vie quotidienne pour la comprendre.
Maman, si j'accouche d'un bébé difforme...
Monologue sur un petit monstre qu'on aimerait quand même.
Je l'aimerais quand même.
Monologue sur un soldat muet. Monologue sur l'éternel et le maudit. Que faire et qui est coupable?
Le caractère soviétique a existé. Et l'homme soviétique aussi. Quoi que vous pensiez.
Monologue d'un défenseur du pouvoir soviétique. Monologue sur comment deux anges ont rencontré la petite Olga. Monologue sur le pouvoir démesuré d'un homme sur un autre. Monologue sur des victimes et des prêtres. Nous disons toujours « nous » et pas « je ». Nous allons leur montrer l'héroïsme soviétique, le caractère soviétique, au monde entier. Mais c'est « je ». Après Tchernobyl, nous apprenons à dire « je ». Je ne veux pas mourir, j'ai peur.
Ну, я еще раз повторю, что, в общем-то, я и писала книгу, чтобы сказать, что мы все везде на этой земле сегодня живем в чернобыльском мире, и отделиться уже невозможно. Действительно, земля стала очень маленькая после Чернобыля. И уже на этой, как бы в этом чернобыльском мире, да чернобыльскому человеку не выжить.
J'ai écrit ce livre pour justement faire comprendre que nous vivons tous dans ce monde d'après Tchernobyl. L'homme qui a la conscience d'avant Tchernobyl n'a pas de chance de survie. Donc une nouvelle prise de conscience est vraiment nécessaire.
Une voix solitaire. Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour?
Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour? Ou c'est égal?
De quoi?
Nous étions jeunes mariés. Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où ils travaillaient. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit. Je n'ai pas vu l'explosion. Rien que la flamme. Tout semblait luire, tout le ciel. Une flamme haute. De la suie. Une horrible chaleur. Et il ne revenait toujours pas. La suie provenait du bitume qui brûlait. Le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, ils s'étaient souvenus qu'ils marchaient dessus, comme sur de la poix. Ils étouffaient la flamme. Ils balançaient en bas avec leurs pieds le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leur tenue en prélard. Personne ne les avait prévenus, on les avait appelés comme pour un incendie ordinaire. 7 heures. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. Pendant ce temps, la ville se remplissait de véhicules militaires.
On lavait les rues avec une poudre blanche. Personne ne parlait de radiation. Seuls les militaires avaient des masques. Hôpital numéro 6. Atchoukinskaya. C'était un établissement radiologique spécial et l'on y pouvait entrer sans laisser passer. Finalement, je me retrouvais face au chef de service radiologique. Le système nerveux central et la moelle osseuse sont entièrement atteints. Il est interdit de s'embrasser et de se toucher, ne pas s'approcher. Tu as une demi-heure. À l'hôpital, j'y reste jusqu'au soir. Et le soir, je retourne à l'autre bout de la ville. Il changeait. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. Je l'aimais. Je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Les selles, 25 à 30 fois par jour. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Bientôt, on leur rasa le crâne. L'infirmière me regarde d'un air effaré. Ce n'est plus un homme, mais un réacteur. Vous allez vous consumer ensemble. Il est mourant ? Et elle me répond. Mais qu'imaginais-tu ? Il a reçu 1600 Röntgen alors que la dose mortelle est de 400. Après leur mort, à tous, on a fait des travaux à l'hôpital. Les murs ont été raclés, les planchers démolis et jetés. Tout ce qui était en bois. Après, la fin. Ces dernières paroles ont été Liucia. Liucienka. Il n'avait plus de corps solide. Il n'était plus qu'une énorme plaie. Les deux derniers jours à l'hôpital, je lui ai soulevé le bras et l'os a bougé, car la chair en était détachée. Des morceaux de poumons, de foie lui sortaient par la bouche. J'enroulais ma main dans une bande et la lui mettais dans la bouche pour en extraire ces choses. On ne peut pas raconter cela. Et c'était tellement proche. Il était impossible de lui enfiler des chaussures. On le mit pieds nus dans le cercueil, sous mes yeux, dans son grand uniforme. On l'a glissé dans un sac en plastique que l'on a noué. Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois. Et ce cercueil, on l'a recouvert d'un autre sac en plastique, transparent, mais épais comme une toile cirée. Et l'on a mis tout cela dans un cercueil en zinc. Seule la casquette est restée dehors. Au cimetière, nous marchons sous escorte. Des soldats nous entourent. On ne laisse passer personne. Nous sommes seuls. J'avais 23 ans.
Нам, как я знал всю технику, военную и все, нам дали баты.
Что это?
На базе танка впереди ковш, лопата, а сзади ковш, как юмазе вот у нас белорус ходит, да? А это гусеничная.
Nous avons mis des feuilles de plomb sur la poitrine.
Просто говорили нам, что броня защищает.
On nous disait que le blindage nous protégeait.
Вы помните такого, мы с ним тоже говорили, Анатолия Боровского?
Помню.
Он где?
Умер.
Вы это точно знаете?
Извините. Нет моих. Но их нет уже. Я могу сейчас пересчитать по списку.
Beaucoup sont morts déjà.
У меня все списки есть.
Кого?
Всех своих людей.
Presque tous.
То есть многие умерли?
Да.
Très jeune.
Очень много умерло. Я вот 2 недели назад похоронил парня.
J'ai rencontré 5 liquidateurs il y a 10 ans, en 90. Je les ai recherchés il y a 2 ans. Un est mort, l'autre est dans la chaise à roulettes, paralysé. Un autre, on était sur le point de l'amputer à cause de du diabète, qui est induit également par la radioactivité. D'autres ont des maladies à 35 ans, de vieux de 70-80 ans. L'un d'eux, il était condamné. Il a une résistance incroyable. Les médecins étaient surpris qu'il ait survécu à cause de la dose qu'il a prise. Un de ces liquidateurs qui était électricien au moment où on construisait le fameux sarcophage. Il a accumulé une dose énorme qu'on n'a jamais voulu révéler parce que toutes les doses ont été censurées sur ceux qui ont travaillé sur ces centrales. Bref, il a survécu. Il est plein de maladies, cataractes, cerveau, tout le système cardiovasculaire, etc., abîmé. Il a épousé l'infirmière qui vivait dans une zone propre de la Biélorussie, qui n'était pas dans des zones polluées. Et il lui est né un fils avec du cancer dans le rectum. Enfin, il est plein de maladies simplement parce qu'il est le fils d'un liquidateur contaminé. Et il y a des conséquences très graves sur la génétique, sur l'hérédité, sur les générations futures à cause de cette radioactivité.
J'ai une sclérose du cerveau. De tout le corps.
Нарушена поверхность это кора головного мозга там есть. Есть водянка мозга у меня, допустим, нарушено кровообращение мозга. Но не только мозга, там по всему телу кровообращение.
Ma vue a empiré.
Мне труднее вещи запоминать, допустим, головные боли частые. Потом есть такое, что со зрением неважно стало. Зрение стало падать совсем. Была очень плохая кровь, была нарушена формула крови. Проблем много.
Mais mon problème numéro 1.
Язва, гастрит.
C'est mon fils.
Ну, перечислять это я про себя уже забыл. Но не одна проблема это.
L'homme que j'aimais se transformait devant mes yeux en un monstre. On lui a enlevé les ganglions lymphatiques, mais sans eux, la circulation sanguine s'est déréglée. Et son nez a bougé sur le côté, pour devenir 3 fois plus gros qu'avant. Ses yeux aussi sont devenus différents. Ils se sont écartés, et une lumière inconnue y est apparue, une expression différente. Il était recouvert d'excroissances noirâtres. Son menton avait disparu. Le cou aussi, la langue pendait. Des vaisseaux éclataient et il avait des saignements. J'apportais de l'eau froide, je faisais des compresses, rien n'y faisait, c'était horrible. Tout l'oreiller se couvrait de sang. Il ne voulait pas mourir, il avait 45 ans.
Это было давно и неправда.
Тот значит неправда, почему?
Ну так, я говорю, у нас обычно говорят, что это было давно и неправда. Это была правда, ну так, говорят, что давно неправда, никому не верю. И еще лучше да, эти времена не вспоминать, потому что раньше был человеком, раньше ходил, раньше на машине ездил, а сейчас уже ни туда, ни сюда. Кошмар. Я водил колонны, поливал дорогу, как колонну провести, чтобы пыли не было. Но в машине больше радиации было, чем на улице.
J'ai été chargé d'arroser les routes. Avant, je marchais. Maintenant, c'est un cauchemar. Je suis sur un fauteuil roulant, invalide.
Ну, сел, як сел, так и все. Таким уже и зарабился, уже колясочником.
J'aimerais qu'on m'aide à trouver une voiture pour aller dans la nature. Sans la nature, c'est difficile. Tchernobyl. Voilà, la route s'étire, le ruisseau coule, il coule, tout simplement. Et cela a eu lieu. J'ai ressenti la même impression lorsque l'un de mes proches est mort. Il y a du soleil, les oiseaux volent, les hirondelles, une ondée passe, et il n'est plus là, vous comprenez. J'ai vu un pommier en fleurs et j'ai entrepris de le filmer. Des bourdons vrombissaient, du blanc couleur de noces. Devant ma caméra, des gens travaillaient dans les vergers en fleurs, mais je sentais que quelque chose m'échappait, que quelque chose clochait, et soudain, cela m'a frappé de plein fouet, il n'y avait pas d'odeur. Le verger était en fleurs, mais il ne sentait rien.
То есть человек еще рядом с этим живет в чувстве постоянного бессилия, поскольку это совершенно новые образы. Тоже нереальное совершенно для него, поскольку у него не развиты эти инструменты, чтобы это постить. Зрение не годится, слух не годится, нюх не годится, словарь не годится, инструмент его не улавливает все это. Новое обличие смерти и жизнь всего.
C'est une expérience pour laquelle nous ne sommes pas préparés. Nos instruments normaux ne fonctionnent pas. C'est invisible, une odeur, un color. C'est vraiment un nouveau visage de la mort.
Même les lilas ne sentaient pas. Les lilas. J'ai eu alors le sentiment que tout ce qui m'entourait était faux, que je me trouvais au milieu d'un décor.
Particulièrement dans la zone vraiment clôturée, la zone interdite à l'habitation, qui est barrée par des barbelés. Quand on y arrive, on sent que c'est une zone où on a très peur, où la nature n'est plus ce qu'elle est, c'est une nature hostile, où on ne sait pas d'où vient le danger, mais le danger est vraiment partout. Et c'est un sentiment complètement nouveau parce que d'habitude, quand on va à la forêt ou on veut s'asseoir au bord d'une rivière, etc., on n'a pas peur. On a plutôt l'habitude d'un monde familier auquel on ne pense même pas. Alors qu'ici, c'est une autre planète.
Un véritable paysage lunaire. Jusqu'à l'horizon, les champs étaient couverts de dolomies blanches, La couche supérieure du sol contaminé avait été enlevée et enterrée. À la place, on avait versé du sable de dolomie, comme si ce n'était pas de la terre.
Люди получают смерть, теперь приходит из земли, то есть убивает еда, малые дозы радиации, которые мы получаем вместе с едой. То есть смерть рассыпана в земле, и она на тысячи лет. Так это называется как бы вечной войной.
Et maintenant, c'est de la terre que vient la mort, parce qu'une grande partie des sols sont contaminés. Les gens continuent à cultiver ces terres contaminées, et donc la mort vient avec la nourriture.
Не возим молоко.
Ну, и вам платят?
Кто платит нам?
А кто, а кому вы продаете?
Маслозаводу.
И завод не платит?
Нет.
Je transporte le lait avec mon cheval. Ils doivent le contrôler.
Значит так, я вожу своим конем.
Да.
Устаю 5 часов и еду по селу по молоко сбираю.
Les habitants, les paysans, c'est les éternelles значит, victimes des seigneurs de la guerre. Платить, comme toujours, да, de tout temps, c'est les paysans des lieux qui да. Vivent dans un territoire splendide да, de beauté qui a cette платить? Particularité. Qui n'est pas le territoire riche, fertile, par exemple, des terres noires de l'Ukraine, qui est plus au sud, mais ce sont des forêts, ce sont des cours d'eau, des lacs, des étangs, où depuis toujours la tradition est de se nourrir de champignons, de baies des bois, de poissons, de chasse. Les quatre sont poisons. Le champignon est un absorbant comme une éponge de cette radioactivité. La plupart des gens qui souffrent, dont tous les organes vitaux sont attaqués par le césium, non seulement comme radioactivité, mais comme élément toxique également, qui désintègre les tissus constitutifs des organes vitaux de l'organisme. Eh bien, ces gens sont obligés de continuer à vivre de ce qu'ils ont sous la main. Parce qu'il n'y a pas, on leur envoie pas évidemment des aliments propres.
Vous vous voyez, мы останемся хворобом нас и будем по одному как кролики умирать на тот свет.
Конечно.
Потому что думаю, что
ici nous mourons comme des лапins. Il y a la leucémie. On n'a nulle part où aller, pas de logement. On cultive la terre. Les oignons, les carottes sont polluées.
Les gens sur place souvent m'ont dit, à un moment on rencontre sur une place un groupe de paysans bloqués dans cette situation, angoissés, des mères de famille, dans l'ignorance la plus complète. Jamais, ils n'ont même pas l'instruction suffisante pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un atome, qu'est-ce que c'est qu'un radionucléide, etc. Pour eux, c'est de l'invisible, c'est de l'atrocement menaçant, et qui sont totalement désemparés, et qui disent, vous venez, vous nous regardez comme dans un zoo, vous repartez, et vous nous laissez.
Если так рассказать, по-русски, коротко. А сами-то они повтекали. Первые секретари, вторые, они по нашей лице, они повтекали отсюда. А нас оставили
все. Le vice-secrétaire du parti s'est enfui.
Я, деточка, лежу на постели, я не могу поднять уже 62 года. Меня в обморок ведет. Не хочу ваши 15 рублей, не хочу там жить.
J'ai 62 ans.
Я вот сегодня сама
Je me suis
постель
évanoui.
Упала. Я не могу идти.
Je n'ai pas de quoi manger.
Vous savez, mes parents sont originaires d'un petit village. Bon, j'ai réussi à les faire partir après la catastrophe, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, la Biélorussie est restée sans aide. Mais la plupart des gens sont restés dans ce village où ils avaient vécu toute leur vie. Et j'y vais tous les ans à la tombe de ma sœur qui est morte de cancer. Et je vois que tous les ans, il y a des dizaines de nouvelles tombes qui s'ajoutent alors que c'est un tout petit village. Et même les enfants parlent de la mort là-bas. Tous les ans, les gens meurent des suites de Tchernobyl.
Когда я там вот в мертвой зоне встретила однажды вот в этой такой забытой деревне старушку, и вдруг она совершенно, ну как, наверное, еще до какие-то времена.
Avant, nous ne voyions même pas le monde autour de nous. Il était comme le ciel, comme l'air, comme si quelqu'un nous l'avait donné à tout jamais et ne dépendait pas de nous, comme s'il devait exister toujours. J'ai même couché sur l'herbe dans la forêt et admiré le ciel. Je me sentais heureuse au point d'en oublier mon nom.
Которые рождаем эти космические корабли, эти невероятные автострады, атомные станции. Мне показалось, что она знает о мире что-то такое, чего мы вот не знаем.
Dans un village abandonné, j'ai rencontré une fois une vieille femme qui vivait toute seule, il n'y avait plus personne là. Et elle m'a dit, oui, je ne m'ennuie pas trop. Je parle aux ruisseaux, je parle aux oiseaux quand ils arrivent, je parle aux arbres. Et il m'a semblé que cette vieille femme, qu'elle savait sur le monde quelque chose que nous, qui construisons les vaisseaux cosmiques, qui construisons ces centrales, qui construisons des autoroutes absolument incroyables, qu'elle connaissait quelque chose sur le monde que nous ne connaissions pas.
Красиво. Ой, летом красиво тут. Лес. А сколько у нас грибов? А сколько у нас ягод?
А сейчас грибы нельзя есть.
Нет. А мы едем. Захотелось, собрались, пошли в лес, набрали чуть-чуть.
Чуть-чуть и поели все.
Да. Поели.
Dans le bois, il y a des champignons, des baies. On en mange.
Не важно, у нас Беларусь бедная.
Да.
Pauvre Biélorussie.
On demande à Radio Erevan, est-ce qu'on peut manger des pommes de Tchernobyl? Réponse. Bien sûr que l'on peut, mais il faut enterrer profondément les trognons.
Vous vérifiez la картошку, потом vous носите в лабораторию.
Ой, господи.
Vous vérifiez les pommes de terre au laboratoire? Non.
Куда же мы понесем проверять? Так, ну картошку.
Вы ее, когда собираете в Краснополе, можете повезти и измерить, проверить.
Попробуйте достукаться. Это же не вам, что вам будет доступ. А мы такие неграмотные. Темно. Вы понимаете, что неграмотному человеку как жить? Вы понимаете?
Да.
По-русски понимаете?
Понимаю,
так
понимаю.
Так как неграмотному человеку жить?
Но если вы их попросите, они вам измерят.
Ну, измеряют, да.
Nous sommes des illettrés.
Чтобы знать. Вы этого не делали.
Des ignorants.
Au début, quand j'interviewais les gens, j'entendais essentiellement le motif de souffrance. Parce que les gens ont perdu leur santé, ils ont été obligés de quitter leur maison, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur terre, leurs animaux domestiques, etc. Et puis, peu à peu, j'ai entendu une autre note, c'était le motif d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle information et d'une nouvelle compréhension du monde que les gens avaient après Tchernobyl. On me racontait des choses impressionnantes. Les gens commençaient à raconter ce que eux, ils ont vu. Eux, ils ont entendu. Eux, ils ont compris.
Nous autres Biélorusses, nous n'avons jamais eu d'éternité. Nous n'avons même pas de territoire historique. On nous l'a pris tout le temps, effaçant nos traces. Nous ne pouvions même pas vivre avec l'éternité, comme dans l'Ancien Testament. Un tel a engendré un tel qui, à son tour, nous ne savons que faire d'elle. Nous ne savons pas vivre avec elle. Nous ne sommes pas capables de la concevoir. Mais elle nous a été enfin concédée. Notre éternité, c'est Tchernobyl.
On obligeait les gens de prendre les cars et de partir tout de suite. On ne pouvait emporter avec soi que les objets en or, de l'argent, enfin des bijoux et des papiers personnels. Et souvent, les gens ont travaillé toute la nuit dans leur potager avant l'évacuation parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'ils n'allaient plus jamais, jamais revenir sur ces terres. Et ils ne comprenaient pas que c'était fini parce que le ciel était bleu, c'était le printemps, tout était en fleurs. Ça ne cadrait absolument pas avec l'image de la catastrophe ou d'une guerre. Il n'y avait pas de bombardement, pas de tir, enfin, tout était calme et beau.
От і ну таке, коротше говоря.
Продаєте молоко теж?
Так, да, молоко продаємо, тому що ми не поїдаємося.
Корови де пасуться?
Корова пасеться.
L'herbe est propre? Je ne sais pas.
О, ну тут в огородах, бо вже тут люди повеселялися, до вона.
Там чиста трава, да?
А я не знаю, чи вона чиста.
Les femmes qui, juste avant leur départ, traillaient pour la dernière fois leurs vaches, ils avaient des seaux remplis de lait et elles restaient complètement interdites quand les militaires leur disaient qu'il fallait jeter ce lait par terre parce qu'il était inutilisable. C'était quelque chose de complètement inconcevable. Et bien sûr, il y avait beaucoup de gens, et justement des gens simples, qui devenaient philosophes parce que c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils comprennent.
Не плач. Ось тобі отячество, тобі все.
Вон таких багато є, як.
12 лет. 13 год пішов вже. І це все окупація, окупація. Хто окупацію має? Ти, що має капітал, ти окупився. А я не маю капіталу, я не в'їду нікуди. Я таки повинен був зачищати отечество, воювати. І бо нічого. Я говорю, що спасибо за вашу заботу, за вашу.
Pour survivre, nous devons apprendre à vivre dans ce nouveau monde et cela nous met en quelque sorte à part.
Тим более, что Чернобыль с нами как бы навсегда. Белорусской, только на белорусской земле лежит радиоактивность, равная 350 бомб Хиросимы. Это подсчитано физиками. Это лежит на тысячи лет.
D'autant plus que Tchernobyl, dans la dimension humaine, c'est pour l'éternité. Dans le sol biélorusse seulement, il y a une quantité de matière radioactive avec le potentiel égal à 350 bombes d'Hiroshima. Cela a été calculé par les scientifiques. Et donc, ça va durer des dizaines de milliers d'années.
Потому что человек вынужден жить, ну, если условно возьмем эту привычную мерку, такой ужас, мерку ужаса, это как войну.
Ce qui s'est passé ici n'entre pas dans ma conscience.
Навсегда, скажем так.
Une chose totalement inconnue de moi détruit tout mon monde antérieur, rend, se glisse à l'intérieur de moi-même. Ma conscience ne saisit pas. Je ne comprends plus ce qu'est le temps.
Вечность вместо времени, сегодня, всегда вместо сейчас. Это серьезные философские проблемы сразу встают.
C'est un énorme problème philosophique parce que quand au lieu de maintenant, il faut dire toujours. Quand au lieu d'une époque, il faut dire éternité. Parce que les cataclysmes que l'humanité a vécu jusque-là, ils duraient quelques années, quelques dizaines d'années, comme une guerre, une grande épidémie, etc. Alors qu'ici, on peut dire, oui, c'est une guerre, mais cette guerre va continuer toujours. Et cela change non seulement la notion du temps, mais aussi la notion de l'espace. Parce que dans une guerre, il y a le côté de l'ennemi et notre côté à nous. Alors qu'ici, toutes ces frontières n'ont plus de sens. Il n'y a plus de près et de loin, de division entre les siens et les autres. Toutes les relations spatio-temporelles se trouvent bouleversées.
On conclut en disant un monde nouveau est né avec Tchernobyl. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette formule ni avec cette représentation. Il n'y a aucun monde nouveau né. Le monde est toujours le même, l'humanité est toujours la même. Une partie de l'humanité a été saupoudrée par un poison. Ce poison a une réalité. On en a fait un truc mystérieux, on en a fait un objet de méditation presque métaphysique, poétique, artistique, point d'interrogation sur la civilisation, etc., au lieu de s'orienter vers comment abolir cette situation. Elle est curable, elle n'est pas irrémédiable.
À la télévision, les émissions se multipliaient. L'un des sujets concernait une vieille femme qui venait traire une vache. Le journaliste s'approchait d'elle avec un dosimètre militaire, le glissait le long du seau de lait. Et le commentaire : vous pouvez constater que la norme est respectée, alors que nous ne nous trouvons qu'à 10 km du réacteur. On montrait aussi la rivière Pripyat, où des gens se baignaient et bronzaient. Au loin, on apercevait le réacteur couvert de panaches de fumée. Et toujours le commentaire : les Occidentaux sèment la panique en diffusant des calomnies délibérées au sujet de l'accident. L'incroyable quantité de mensonges liés à Tchernobyl n'a pas d'équivalent, sauf pendant la guerre.
Савченко, бывший министр здравоохранения, когда он отвечал вот на днях комиссии Верховного Совета, которая разбирается сейчас вот с этими делами, почему же столько лет умалчивалось о том, что творится после Чернобыля и в Чернобыле, Савченко заявил однозначно, что их вызвал Рыжков и сказал, это не секретно, это сверхсекретно.
Он nous faisait signer des documents de confidentialité.
Все сведения о чернобыльской трагедии. Вот весь подход. Поэтому не велись ни учет доз, и если даже где велся, он обязательно специально занижался.
Первый день меня дозиметр показал 34 рентгена, записали 9. Второй день что-то около 30, тоже 5 записали. И на третий раз меня показало что-то около 40.
И вы это
записали 2. Да.
Вы видели?
Да, ну прямо в прибор вставлялся, я сам смотрел. На балконе, говорю, тоже в балконе, не брать.
Comme tout le monde, j'avais un dosimètre accroché au cou. Après le travail, je le remettais à la première section secrète. Là, il reportait les données sur nos fiches individuelles. Mais la quantité de radiation que nous avions reçue demeurait strictement confidentielle.
Я задал полковнику, я сам прапорщик, старший прапорщик. Он говорит, тоже полковник, что вы делаете? Пишите то, что у меня есть. Идите отсюда, чтобы я вас не видел. И все, больше ни слова.
J'ai voyagé à travers les villages qui sont parfois à 200 km de la centrale où la radioactivité est comme dans la zone interdite de Tchernobyl. Donc quand on parle de mesures de prévention prises dans un rayon de 30 km, ça fait sourire jaune les scientifiques sur place, lucides et qui connaissent ces situations parce que vous savez que les radiations, suivant les vents, suivant les pluies, etc., tombent par tâche et pas du tout seulement dans la proximité. Donc. Et donc c'est ça la réalité qui n'est pas un mythique. Ce n'est pas un monde nouveau devant lequel il s'agit de se résigner et de savoir comment y vivre. C'est une chose qu'on peut combattre parce que c'est palpable, c'est réel. Le césium-137 n'est pas un truc insaisissable, mystérieux. Je l'ai vu de mes yeux vus parce que dans un laboratoire, quand on fait une concentration de ce césium, à la fin, on voit une fine poussière Il est évident que si vous prenez un grain de cette poussière qui est mesurable en microns, il est sans doute invisible même sur un fond noir. Mais concentré, c'est comme du sucre glacé, vous savez, mais encore plus fin. Donc c'est du venin simplement, c'est du poison dont on a saupoudré les forêts, les étendues, les lacs, etc., qui est un objet qu'on peut combattre. Il suffirait, et c'est chiffrable, et c'est pas impossible au niveau mondial, de fertiliser ces territoires pauvres sur lesquels est tombé ce césium dans le sud de la Biélorussie, pour que les gens puissent y vivre sans pourrir sur place, comme on le fait en ce moment. Ce qui est irrémédiable, c'est pas le césium, c'est le cynisme de la politique et de la morale des pays riches et du lobby atomique.
Международное агентство по атомной энергии ведет, это понятно. Тут трудно ожидать объективности. Меня гораздо больше удивляют медики и Международная организация здравоохранения и Международная комиссия по радиационной защите.
L'industrie nucléaire est la seule industrie qui n'a pas d'assurance civile. Ça coûte trop cher. Et alors, ce devrait être la charge des pays riches détenteurs de cette industrie de constituer un fonds international de garantie pour le cas d'un accident de ce genre, par exemple. Ce qui remet en question tout, toute une information commencerait à émerger. Pourquoi le faire? Alors, c'est dangereux. Alors, pourquoi on le fait, c'est central, c'est dangereux. Bref, c'est toute la spirale à l'inverse de cette censure qui a été institutionnalisée par l'accord de 1959 qui a été signé entre l'organisme de l'ONU, l'Agence internationale pour l'énergie atomique et l'OMS, de se taire sur les éventuelles conséquences. C'est là le gros problème de civilisation du monde occidental actuellement.
Тому даже это трудно назвать оптимизм, который это что-то другое, какое-то такое безбожие, но в каком-то нерелигиозном, более в таком широком смысле, когда ученые, там, ядерщики, атомные чиновники...
Un groupe de scientifiques est arrivé en hélicoptère. Ils portaient des vêtements spéciaux de caoutchouc, des bottes hautes, des lunettes de protection, comme pour un débarquement sur la Lune. Une vieille femme s'est approchée de l'un d'eux. Qui es-tu ? Un scientifique. Un scientifique ? Voyez comment il est affublé. Et nous, alors ? Elle l'a poursuivi avec un bâton. Je me suis dit à plusieurs reprises que l'on finirait par faire la chasse aux savants pour les noyer, comme au Moyen-Âge.
Et je suis toujours étonnée de voir comment les scientifiques, les spécialistes du nucléaire nous assurent que nous vivons dans un monde sûr et sans danger. Quand on a construit les centrales chez nous, on nous assurait aussi que ces centrales étaient tellement sûres qu'on pouvait en construire même sur la place rouge. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé, les scientifiques ne devraient pas afficher cet optimisme et continuer à nous assurer que nous vivons dans le même monde comme avant, que rien ne s'est passé. Cela me paraît plutôt proche, non pas de la logique, mais de l'incantation des tribus primitives.
Il n'y a pas de véritable chronique de Tchernobyl, dans la mesure où personne ne pouvait vraiment filmer. Tout était couvert par le secret militaire. Je suis cadreur de cinéma. Je suis allé là-bas. Partout, on nous disait « Ah, les cinéastes, on va vous trouver des héros ». Par exemple, un vieillard et son petit-fils qui ont mis 2 jours pour conduire les vaches du kolkhoz de leur village situé tout près de Tchernobyl jusqu'à l'endroit où ils ont été évacués. Après le tournage, le vétérinaire du coin m'a montré l'énorme tranchée dans laquelle ces vaches ont été enterrées à l'aide d'un bulldozer. Mais je n'ai pas eu l'idée de filmer ça. Je me suis éloigné de la tranchée pour tourner un épisode dans la meilleure tradition du cinéma documentaire soviétique. Les conducteurs du bulldozer, lisant la Pravda avec un titre en lettres énormes, « Le pays ne vous abandonne pas dans le malheur ». De plus, j'ai eu de la chance, une cigogne s'est posée sur le pré à côté, tout un symbole. Nous vaincrons, quelles que soient les difficultés. La vie continue.
Tchernobyl, c'est la folie de la performance, arriver à faire une expérience unique avant le 1er mai. On a bloqué certains passages de sécurité automatique de façon à arriver à temps. Et c'est ça qui a joué. Ils ont exclu certains mécanismes prévus qui devaient entrer en jeu si quelque chose ne marchait pas et qui auraient arrêté la centrale. Ils les ont bloqués pour accélérer, ce qui a créé l'irrémédiable de l'accident. Stupidité humaine en fonction d'une idéologie. Arrivé avec la main à la casquette, nous avons fait la performance soviétique, etc.
Nous avons été élevés dans un paganisme soviétique très particulier. L'homme était considéré comme le maître, la couronne de la création, et il avait le droit de faire ce qu'il voulait de la planète. Tchernobyl est une catastrophe de la mentalité russe. Tchadaïev a été le premier à définir notre hostilité envers le progrès, notre aversion pour la technologie, notre anti-instrumentalisme. À part ses mains, de quoi dispose un villageois encore de nos jours ? D'une hache, d'une faux et d'un couteau, et d'une pelle. Comment un russe s'adresse aux machines ? En les couvrant d'injures. Il ne les aime pas, il les méprise, il les hait. En fait, il ne comprend pas ce qu'il a entre les mains. J'ai lu quelque part que le personnel des centrales nucléaires traite les réacteurs de casseroles, de samovars, de cuisinières. Voilà de la superbe. Nous allons cuire des œufs au plat sur le soleil. Il y avait beaucoup de paysans parmi ceux qui travaillaient à Tchernobyl. Dans la journée, ils étaient à proximité du réacteur, et le soir, ils retournaient dans leur potager et dans ceux de leurs parents d'autres villages. Ils y plantaient des pommes de terre avec une pelle et distribuaient le fumier avec une fourche. Leur conscience se baladait entre deux époques, l'âge de pierre et l'âge de l'atome.
Мы вместе с Легасом поднялись на вертолете над реактором, и, пожалуй, это вот первое было, сказать, ощущение такое. Ну, вот если говорят верующие люди, что есть ад, то я думаю, что я в этом аду был.
Le héros scientifique, c'est le professeur Nesterenko, scientifique de haut niveau, directeur à l'époque de l'URSS, de l'Institut atomique biélorusse. Cet homme, dans les premières heures, a survolé la centrale en feu, en hélicoptère, avec un autre scientifique, son collègue et ami, qui s'appelait Legasov, qui par la suite s'est suicidé, car les informations qu'il donnait ont été censurées en Occident et ensuite en URSS, pour essayer de voir et de comprendre de quelle façon on pouvait essayer de l'éteindre. Il a pris sa belle dose de radioactivité lui-même, il a son système digestif abîmé, mais survécu par chance. Et quand il a vu les centaines d'enfants qu'on commençait à emmener sous Minsk, et il a commencé à les mesurer, ça a été la révolution interne, éthique de cet homme qui a compris qu'il ne s'occuperait plus jamais de l'atome. Parce que, à son avis, cette science et cette technologie, l'humanité n'est pas moralement et politiquement mûr pour pouvoir jouer avec un instrument de ce genre. Et il a orienté tout son engagement, disons, pour essayer d'aider ces populations. Il a immédiatement, dès les premières heures, il a alerté les pouvoirs publics qui tendaient à dire « mais non, c'est un incendie, c'est pas grave ». Enfin, pendant 4 ans, l'Union soviétique a étendu un silence complet sur la réalité. On a chassé de son poste de directeur. Il a constitué son institut indépendant pour mesurer les territoires et les personnes. Les Irlandais l'ont doté de 6 ambulances avec des fauteuils de mesure. C'est un système électronique très sophistiqué sur la base d'un cristal au fond d'un fauteuil, sur le siège d'un fauteuil. Où on met un enfant, par exemple, pendant 3 minutes, et on voit combien de becquerel il a dans le corps, et de quelle origine, si c'est du césium ou autre. Et le becquerel, c'est une désintégration atomique par seconde.
Очень интересный препарат, называется Яблопект. Его делают на Украине. Это таблетки, они растворимы в воде. общем, если месяц ребенок или взрослый пьет такой препарат перед едой, там 2-3 раза в день, то можно на 30-40% за месяц почистить.
Спасибо большое.
Pour Marina, la dose au début était de 471 becquerels. Une dose énorme.
Так, ну а что у нашей Марины было? 400 было 471 бекерелей на килограмм веса. Марин, а таблетки пили сейчас?
Пили.
Пили. Сколько вы успели выпить?
Ну, осталось мне 3 таблетки.
3 таблетки, да?
Cet homme voyage à travers le village avec le peu de moyens qu'il réussit à avoir pour éduquer les populations, parce qu'on peut traiter les aliments, on peut abaisser le taux de radioactivité présente dans les champignons, par exemple, ce qui oblige les mères de famille à avoir une discipline qu'ils n'ont jamais eue pendant des siècles, mettre les champignons pendant 2 heures dans de l'eau salée, jeter cette eau, les remettre encore pendant 2 heures dans de l'eau salée, jeter encore, ce qui fait baisser de 70% la présence de radionucléides dans les champignons, et ainsi de suite, la viande, etc., éviter certaines choses définitivement, les baies des bois, par exemple. Le lait peut être centrifugé, séparé, le gras du petit lait. Le petit lait contient beaucoup de radionucléides. Bref, atténuer les choses. Plus, il leur distribue, avec les peu de moyens qu'il a, des tablettes de pectine. On sait que la pectine est un absorbant, ce qui évidemment allège ce bombardement sur les organes vitaux de l'intérieur.
Все, Марина, здоровья. Пожалуйста.
Надо перевязать. Тут практически, вы знаете, уже полость тампонирована вот этим тампоном.
Soigner un enfant, c'est $28 pour un enfant. $28. Bon, il y a 500 000 enfants dans ces conditions. Nesterenko, il n'a pas cette somme. Avec 2 journées de bombardement sur la Serbie, vous pouvez financer 15 ans de traitement pour 500 000 enfants biélorusses. L'argent pour détruire les vies existe. Pour aider à vivre, on dirait qu'il n'existe pas. Si la mère est polluée, si la mère mange du mauvais lait, si elle mange de la mauvaise viande, des champignons, etc., le placenta devient une espèce de thermos chargé de radioactivité qui bombarde le fœtus. Déjà, il y a beaucoup d'enfants qui ne naissent pas du tout, parce qu'il y a des avortements provoqués, parce qu'on sait que ce sera un monstre. D'autres naissent déjà avec des malformations. Mais une fois que l'enfant est né et que la mère l'allait au sein, la mère se libère de sa radioactivité à travers le lait sur l'enfant.
On ne peut pas partager les enfants en tchernobyliens et non tchernobyliens.
И не только дети, но и взрослые. И не только взрослые, не только дети, уже бывшие детьми, но и те не родившиеся дети еще. А теперь мамы, которые росли в условиях повышенной радиации и сейчас рожают. Поэтому я считаю, что все наши дети это, в общем-то, так сказать, дети повышенного риска, дети условия повышенного риска радиации, радиационных воздействий на организм.
Il y a eu une exposition de peinture dans notre ville, des tableaux sur Tchernobyl. Un poulain court dans la forêt, mais il n'a que des pattes, 8 ou 10. Un veau à 3 têtes, des lapins sans poils dans une cage, comme s'ils étaient en plastique, des gens qui se promènent dans les champs en scaphandre, des arbres plus hauts que des églises, des fleurs grandes comme des arbres. Un garçon tend les bras vers une fleur de pissenlit, ou peut-être le soleil, mais il a une trompe en guise de nez. J'ai eu envie de pleurer.
Он только вертикально.
это вот то, что происходит, когда я говорю, что Чернобыль выбросил нас в какую-то совершенно другую реальность. И это действительно потеря реального ощущения между реальным и нереальным и стирание граней между всей живой жизнью. Это тоже очень важно в этой книге и тоже в этом русле. Между человеком и цветком, животным. То есть как бы появляется уже одна ценность, просто жизнь живая.
Cette confusion entre le réel et l'irréel provient du fait que les frontières entre les espèces s'effacent. Il ne s'agit plus d'humains à part, animaux à part, insectes à part, fleurs à part, etc. Parce que, en quelque sorte, nous subissons tous le même sort. On sent beaucoup plus fort l'interdépendance et maintenant il faut plutôt parler en termes de vie en général. Et ça, c'est complètement nouveau pour l'homme.
Например, такие детали. Человек, который там работал вот, во время сооружения саркофага, и ты у него спрашиваешь, что вы там делали? Он говорит, мы занимались таким безумным занятием, как мыли дома, дороги, хоронили землю в земле. Да, вот реальное и нереальное как бы совершенно. А второе, поднимешь пласт земли, а там вдруг обнаруживаешь другую цивилизацию. То есть жучки зеленые, черные, красные, там эти. И ты даже в лицо их не знаешь. Ну, ты их убил.
Bien sûr, comment peut-on parler du réel? Par exemple, je me souviens du récit d'un liquidateur qui me disait on s'occupait de quelque chose d'absolument inimaginable et absurde. On lavait les maisons de l'extérieur, on lavait les routes, on enterrait la terre. Il fallait donc enlever des couches entières. Et sous ces couches, on découvrait la vie complètement inconnue d'autres civilisations, d'autres mondes, des insectes, des petites bêtes vertes, rouges, marrons. Et je ne connaissais pas leur nom, mais on les tuait quand même. On tuait la vie.
И вот литература как бы репетировала апокалипсис, особенно там американская, да и все литературы упражнялись в этих концах света, да? Но реальность сама гораздо фантастичнее.
Différentes littératures ont fait beaucoup d'exercices de style pour décrire l'apocalypse, la fin du monde, et pourtant personne n'a prévu cette forme d'apocalypse plus fantastique que tout ce qu'on a pu inventer.
J'ai appris et senti à Tchernobyl quelque chose dont je n'ai pas envie de parler. L'homme n'est pas un héros. Nous ne sommes tous que des vendeurs d'apocalypse, plus ou moins grands. Je voudrais tourner un film sur les animaux. Une chose extraordinaire m'est arrivée là-bas. Je me suis approché des animaux, des arbres, des oiseaux. La distance entre eux et moi s'est rétrécie. Je suis allé à plusieurs reprises dans la zone toutes ces années. Un sanglier bondit hors d'une maison abandonnée et pillée. Une biche sort d'une habitation. J'ai filmé tout cela. Je veux faire un film et tout voir au travers des yeux d'un animal. Qu'est-ce que tu filmes, me reproche-t-on. Regarde autour de toi, il y a la guerre en Tchétchénie. Mais Saint François prêchait aux oiseaux. Il parlait aux oiseaux comme à ses semblables. Et si c'était les oiseaux qui lui parlaient dans leur propre langue et non lui qui s'abaissait jusqu'à eux. Ils comprenaient leur langage secret. Vous vous souvenez de Dostoïevski? Il parlait d'un homme qui fouettait un cheval sur ses yeux dociles. Un fou. Pas sur la croupe, mais sur ses yeux dociles.
Je me souviens le récit d'un gamin. Il était tout petit quand il a été évacué. Et comme vous savez, les animaux n'ont pas été évacués. Tous les animaux domestiques sont restés là. Et ensuite, il y avait des groupes de militaires et de chasseurs qui les ont tous fusillés. Donc, ce garçon qui a été évacué, on lui a dit qu'on amènerait son chien plus tard. Il avait un petit chien. Puis on lui a dit que le chien était tombé malade. Enfin bref, deux ou trois ans plus tard, quand il avait déjà 8 ou 9 ans, il a appris par d'autres personnes que tous les animaux ont été liquidés. Et alors elle a posé une question Il a dit, pourquoi, pour quelle raison a-t-on fusillé mon chien? Et puis il dit, mais nous avions aussi un nid de cigognes. Est-ce qu'on a prévenu les cigognes qu'il fallait partir? Et je pense que ça, c'est une question qui appartient déjà à une nouvelle conscience et à une nouvelle époque.
ACR, Atelier de création radiophonique. Une étoile nommée Absinthe, Tchernobyl. Par René Farabet. Svetlana Alexievitch. La supplication. Chronique du monde après l'apocalypse. Édition J'ai lu. Traduction Galia Ackermann, Pierre Lorrain. La prière de Tchernobyl, par la compagnie Brute de béton, Bruno Boussagol, avec Patricia Ocouturier, Johanna Gianou, Gabriel Chervalier, Nathalie Van Roo, Philippe Boézet, Elsa Carayon, Marielle Coubaillon, Vladimir Tcherkov, Nous de Tchernobyl, 1991, et Le piège atomique, 1999, extrait. Film, télévision suisse-italienne, Lugano. Avec Svetlana Alexievitch, Galia Ackermann, Vladimir Tcherkov et Françoise Lebrun. Son, Jürgen Ellinghaus, Étienne Chambol. Groupe de réalisation, Pierre Bouillin, Thomas Duterre, René Farabet, Pierre Mine. Une étoile nommée Absinthe, Tchernobyl.
Les iconiques de France Culture, une centaine de fictions, émissions de création, grands reportages, documentaires historiques, 60 ans d'histoire de radio à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.